RLP.
C'est Maurice Meulier dans l'émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, bonjour. Bon, ben le soleil, il est pas là. Je pense qu'il est parti faire grève. C'est normal, hein. Bon. Alors, vous avez vu, il paraît que place de l'Étoile, ils ont mis plein de bottes de paille, hein, et ils ont rendu un hommage. Ils voulaient le rendre, vous savez, où il y a le soldat inconnu, la fameuse flamme, là, à tous les suicidés agriculteurs. Parce qu'il paraît que les agriculteurs, ils se suicident. Vous vous rendez compte, c'est pas normal, ça. Vous vous rendez compte, tous les orphelins qu'ils laissent, les vaches, les moutons, les poules, les coqs, hein. Bon, c'est pas gentil ce que je dis, bon, c'est un peu trop ironique. Mais bon, c'était comme ça, en passant, bon, ça faisait des fois, j'ai des petits moments de folie, comme ça, mais je regrette ce que je viens de dire. Non, c'est triste. Et alors, bon, alors, je parlais de suicidé, bon, puis comme un fait d'exprès, j'ai un poème de moi, qui fut écrit le 24 août 2022, encore une fois à 3h25, vous vous rendez compte? C'est-à-dire en pleine nuit, en plein sommeil même. Et le titre, bon, ne prenez pas vos mouchoirs, c'est pas à peine. Hein. Plutôt faites des sourires, ça sera quand même plus joli. Je suis un mort vivant. Ouais, figurez-vous. Bah oui, je suis vivant, mais un jour je serai mort. Donc on peut inverser, on va pas mettre « je suis un vivant mort ». Non, un mort vivant. Mon âme n'est plus à sa place, mes souvenirs ont disparu. Mes repères aussi. Je recherche mon passé. Mon regard erre sans se poser sur un indice. Mon futur et mon présent semblent perdus parmi ce nouveau décor vide de mon vécu. Seuls quelques objets fidèles me redonnent des bribes de mon passé. Je n'arrive plus à reconstruire une histoire. Je suis comme un nouveau, sans passé. Presque un nouveau-né. Je suis un mort-vivant. Je ne reconnais plus mon écriture. Elle est comme une étrangère qui s'incruste en moi. Je n'habite plus chez moi. Seuls restent quelques beaux souvenirs de celles que j'aime encore. Ils restent enfouis au plus profond de moi-même afin de ne pas disparaître. J'ai fermé une porte pour en ouvrir une nouvelle sur l'incertitude. Ce nouvel horizon semble incertain dans mon passé, sans mon passé. Demain peut-être je retrouverai mon âme au fond du bois, là où les écureuils cachent mes repères et mes anciens regards. Voilà. Alors c'est un petit peu vrai parce que je vis maintenant pas loin d'une forêt, et de chez moi, je vois les écureuils. Et ça se trouve, ce sont eux qui m'ont piqué ma mémoire. Hein, quand je suis arrivé là-bas, à Razac, oui. Mais je vais laisser, bon, s'ils aiment ça, on va pas les tuer, on va pas les emmerder quand même, les écureuils. Hein. C'est tellement beau. J'aime bien, c'est quand ils sautent de branche en branche, et il y en a un qui se casse la gueule. Non, je blague, enfin, ils se cassent jamais la gueule, c'est ça le problème. On peut même pas rigoler de ça. Et heureusement, bon. Parce que j'ai remarqué, c'est qu'ils n'ont pas de parachute. En tous les cas, hein. S'ils se cassent la gueule, tant pis pour eux. Hein. Allez, bon, on va faire. Alors, j'ai fait venir un assistant aujourd'hui. Ouais. Ah ouais, parce que j'en avais marre de lire tout seul. Bon. C'est monotone, hein, tout seul. Bon, c'est bien qu'il y a mamie qui m'écoute, mais quand même. Hein. Hein, bon. Bon, mamie, il n'y a pas que mamie. Bon, les 25 000 auditeurs et auditrices qui m'écoutent chaque vendredi, bon, ça me fait plaisir quand même. Hein. Mais mamie, c'est pas un petit peu particulier, mamie. Il y a autre chose entre nous. C'est pas que de la poésie, comme avec vous, les autres, non. Il y a un petit quelque chose en plus. J'ai du mal à le définir, ce petit quelque chose en plus. Parce qu'il est invisible, il est inodore. Ben oui, parce qu'elle est comme vous, elle est devant son poste de radio. Et moi, je suis derrière mon micro. Hein. Mais il va falloir que je creuse pour savoir ce qu'il y a entre nous deux, exactement. De l'amour. Mais non, c'est pas encore vu. C'est pas possible. Hein. Alors, bon, je sais qu'elle fait comme moi tous les soirs. Elle prend son dentier, elle met ça dans un verre à dents, avec une petite pastille effervescente pour les faire rigoler un petit peu, les prothèses. C'est normal, ça leur fait du bien, hein, avant de dormir, comme ça. Hein. Bon, je sais que c'est pareil pour moi, entre nous deux, mais c'est la seule chose pour le moment que je sais. J'en sais pas d'autre. Hein. Bon, allez, on va... Alors, dans le coup. Alors, oui, mon invité ou mon adjoint, je sais pas comment on l'appelle, il paraît que c'est mon petit-fils, ouais. Il s'appelle... Comment il s'appelle ? Comment tu t'appelles ? Hé, hey, réveille-toi. Parle dans le micro, là. Parle dans le poste. Comment tu t'appelles ?
Maëlle.
Plus fort. Mets-toi, mets le micro. Allez.
Maëlle.
Alors, tu vas nous lire un poème. Allez, pose ton smartphone. Le fais pas tomber. Hein. Allez, près du micro et très fort.
La batteuse est arrivée. La batteuse est repartie. Ils ont battu le tambour. Ils ont battu les tapis. Ils ont tordu le linge. Ils l'ont pendu. Ils l'ont repassé. Ils ont fouetté la crème et ils l'ont renversé. Ils ont fouetté un peu leurs enfants aussi. Ils ont sonné les cloches. Ils ont égorgé le cochon. Ils ont grillé le café. Ils ont fondu le bois. Ils ont cassé les œufs. Ils ont fait sauter le veau avec les petits pois. Ils ont flambé l'omelette au rhum. Ils ont découpé la dinde. Ils ont tordu le cou au poulet. Ils se sont donné un coup de main. Ils se sont rendus des coups de pied. Ils ont basculé la table. Ils ont arraché la nappe. Ils ont poussé la romance. Ils se sont étranglés, étouffés, tordus de rire. Ils ont brisé la carafe d'eau frappée. Ils ont renversé la crème renversée. Ils ont battu la campagne. Ils ont tapé des pieds. Tapé des pieds, tapé des mains. Ils ont crié et ils ont hurlé, ils ont chanté. Ils ont dansé autour des granges où le blé était enfermé. Où le blé était enfermé, moulu, fourbu, vaincu, battu. Jacques Prévert.
C'est qui ?
Jacques Prévert.
Jacques Prévert. Alors, bah c'est bien. Hein ? Bravo. Mais alors, tu sais, quand c'est comme ça, avant de parler dans le micro, il faut le lire une ou deux fois. Comme ça. Et puis alors, surtout qu'il a battu le record. Il a fait ça en mâchant son chewing-gum. Vous vous rendez compte ? C'est ça, nouvelle génération. Ils sont capables de réciter un poème avec un chewing-gum dans la bouche. Moi, si j'essaie, ça ne marche pas. D'abord, et moi, les chewing-gums, je ne peux pas en prendre parce que j'ai une prothèse dentaire, sinon... Ça va faire. Non, ça peut... c'est pas possible. Hein. Non, bon. Alors, voilà. Et si on passait un petit peu de musique, quand même, merde. Hein. Allez, gospel. Louis Armstrong, en plus, vous vous rendez compte ? Waouh, génial.
The trouble I've seen, nobody knows my sorrow, nobody knows the trouble I've seen, glory hallelujah.
No. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh yes, Lord. Sometimes I'm almost to the ground. Oh yes, Lord. Oh, nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah.
Oh, every day to you I pray. Yes, Lord, for you to drive my sins away.
Oh, yes, Lord. Oh, nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen.
Glory,
glory.
C'est reposant. Hein. Ah, dis donc, hein, pour du gospel. Hein. Bon, vous savez, le gospel, en fait, c'est des chants religieux, hein, bon, dans les églises. C'est pas comme chez nous. Hein, vous asseyez, vous agenouillez sur un prie-dieu, et puis vous fermez les yeux, vous baissez la tête, vous prenez vos mains dans vos mains, puis vous attendez que le curé, il se boive son petit coup de rosé hein, et il avale son hostie. Non, là, c'est différent, là-bas. Hein. Alors, le gospel, bon, c'est une religion. Alors, est-ce que c'est une religion protestante, je ne sais pas, réformiste, ou carrément catholique, au final hein. Il y a des cathos aux États-Unis, hein, même parmi les Noirs. Hein. Bon. Enfin, bon, ça serait bien de découvrir. Parce que j'ai entendu la même chose, moi, une fois, à l'église, à la cathédrale Saint-Front, figurez-vous. Mais c'était une chorale de l'origine noire, mais pas américaine, africaine. Et ils avaient dans leur répertoire, comme ça, du gospel. C'était très joli. Et je me souviens, quand on avait fait la messe solennelle de la mort de l'abbé Pierre, ils étaient venus chanter dans la cathédrale, juste après le discours que j'avais fait, parce qu'à l'époque, j'étais le président d'Emmaüs, hein. Donc j'avais le droit à faire un discours solennel, ce qui est fort, ce qui est impressionnant. On a d'un seul coup, on se sent dans une dimension autre que un simple être humain. Bon, mais c'est normal, tout le monde, ça ferait ça à tout le monde. Hein. Et j'ai beaucoup aimé le gospel, parce que c'était le gospel de ce que vous venez d'entendre, hein, enfin dans ce style-là, voilà. Alors, je vais vous lire un poème de notre pantonéisé Manoukian. Alors, ce n'est pas vraiment un poème, c'est plutôt une lettre, mais ça ressemble beaucoup à de la poésie. Alors, il écrit aux travailleurs immigrés, et son texte s'appelle « Restons éveillés ». Quand je vois vos visages bronzés, fouettés sans cesse par le vent et la pluie, et de vos yeux les songes fluides, la flamme sublime, votre âme coule dans mon âme. Comment ne pas vous chanter? Vous êtes venu au monde dans d'humbles chaumières. Les chants immenses ont rempli vos cœurs d'indescriptibles désirs. Les montagnes vous ont appris à être fiers, indomptables. La terre maternelle a rempli vos artères de sa sève féconde. Mais, emporté par la fureur sauvage du simoun, comme des fleurs arrachées aux buissons qui les portent et qui se dispersent au gré du vent, vous avez tendu votre voile vers tous les rivages de la vie. Attention, camarades, l'ennemi est toujours là, le monstre qui, comme les sangsues ou le ver rongeur, boit le sang de nos bras qui peinent sans arrêt, telle une hyène prête à vous dévorer. Sous le masque de la foi, il verse à ses victimes le poison de la corruption et de l'ignorance. Et, amour de mensonges et de haine raciale, il attise les foules des passions criminelles. Quand le flambeau de la conscience éclaire nos esprits, pardon. Oui, parce que c'est dactylographié, et je l'ai remis dans une revue, ce qui fait que le texte dactylographié de l'époque, c'est pas aussi lisible que maintenant avec le numérique. Hein. Alors, les flambeaux de la conscience éclairent nos esprits, que le sommeil ou la lassitude ne violent point nos âmes. À tout moment, l'ennemi change de couleur et de ferme. Ouais, le ferme, bon. Et nous jette sans arrêt dans la gueule inassouvi. Restons éveillés, ô camarades héros du travail. Les ténèbres nous guettent pour nous engourdir. Que la haine croisse en nos cœurs avec une sourde colère. Attisons en nous le feu de la lutte des classes. Manoukian, voilà. Donc, c'est, vous voyez, c'est presque un poème et c'est un cri. C'est un cri de désespoir aussi. Hein, le, voilà, parce que, bon, vous connaissez la suite. Hein, bon, voilà. Donc, je voulais vous le dire parce que c'est, on est en pleine époque de, donc de, on va dire, des hommages qui ont été faits à cet homme, mais également à tous ses compagnons, parce que, et à sa femme aussi. Hein, oui, c'est pas... Et alors, il était très copain avec Aragon, figurez-vous. Alors, je ne sais pas, c'est elle qui écrit, hein, donc sa femme Mélinée. Elle dit à mon cher Aragon, au témoin des martyrs, ce témoin martyr que je fus et demeure. Ce regard sur ma vie, le Manoukian qui se poursuit au-delà de sa propre mort, le regard sur Elsa et Manoukian. Voilà. Donc, alors, parce que Elsa, la femme de l'Aragon, en fait, était aussi une communiste, une révolutionnaire, figurez-vous. Tout à fait dans la trempe de Manoukian, comme Aragon d'ailleurs. Hein. Et c'est pour ça qu'ils étaient très proches et qu'ils se sont connus. Voilà. Bon, je ne vous fais pas un cours d'histoire là, hein, mais bon, il faut aussi que sortir des fois un petit peu de la poésie pour raconter un petit peu comment sont les gens. Hein. Regardez, là, je vais bientôt vous lire, la semaine prochaine, je vais vous lire un poème de Salvador Dali, hein, par exemple. Bon, hein. Eh bien, vous verrez, c'est fantastique. Hein. Voilà. Bon, c'est tout ce que je voulais vous dire. Sinon, que on va écouter Brigitte Fontaine et elle parle de entre guillemets.
Go.
Tu me dis que je suis génial. Entre guillemets, laisse tomber les guillemets. Tu me dis que je suis fatal. Entre guillemets, laisse tomber les guillemets. Tu me dis que je suis jolie. Entre guillemets, laisse tomber les guillemets. Tu me dis que je suis sexy. Entre guillemets, laisse tomber les guillemets. Entre guillemets, laisse tomber les guillemets. Tu me dis que je te charme. Entre guillemets, laisse tomber les guillemets. Que tu déposes les armes. Entre guillemets, laisse tomber les guillemets.
Fermez les guillemets. Bon, ça ne veut pas dire qu'on s'en va. Hein. Il y a encore 10 minutes devant nous. Hein. Alors, 10 minutes. Bon. Alors, figurez-vous que j'ai trouvé un poème d'une certaine Yasmina. Elle avait écrit ça en 2013 à Las Palmas. Et ça s'appelle Yasmina dévoilée. Bon, je pense qu'en lisant le texte, vous allez tout de suite comprendre que c'est encore quelque chose de très dur. Le tumulte de la décadence résonne encore dans sa tête. Elle fomente la caféine, qui dans le cœur tête. Les battements d'angoisse au rythme des tambours solennels et aussi présents que l'un de ses membres la veille fut diffuse. Sous d'épaisses nuées de pétun qui s'abattaient sur elle comme un ciel furieux mais serein, où elle revit les visages de la fatalité, du devoir et de la nostalgie. D'antan si éphémère, pardon, excusez-moi, je mélange mes mots, enfin pas les mots, mais carrément là, le mot. C'est bien le mot, vous pouvez pas le mélanger. Ça ferait sinon le tome. Bon, ça veut dire aussi quelque chose, le tome, hein. Bon, mais enfin, on va revenir à des choses plus raisonnables. Hein. Alors, voir de nostalgie d'antan si éphémère, qu'une rose qui fane comme par magie, elle s'endormit encore une fois d'un sommeil de plume. Qu'emportera, sait-on jamais, à jamais l'amertume. La morale, l'idéal et la vertu pèsent sur sa conscience. Elle ne peut en satisfaire aucun, tant les tabous se prenant naissance que dans les esprits ascètes et en vérité haineux. L'attente, comme elle en vit d'un joyau, ou alors d'une simple tarte. Et elle ne peut s'assouvir ses convoitises, au moins répondant à sa nature, mais les remords s'en prennent à son âme et la torture. La cohue s'est soudain tue. Cette liqueur rouge indigent lui creuse dans le ventre et la blase à présent, le brouillard visuel se dissipe. Seule demeure la brume septentiternelle, où son âme se démène comme joute un soldat éternel, mécréant, frappant, méconnaissant, sien et tierce, tantôt sanglotant, criant, que tout cesse, tantôt sombrant dans la démence. Partout, la libation se poursuit jusqu'à l'oubli total de ce qui éteint le cœur, de cette incertitude qui lui sera, sait-on, un jour fatal. Bon, apparemment, elle a subi quelque chose de grave, hein, mais elle ne le dit pas franchement. Alors, est-ce qu'elle a été condamnée à mort? Est-ce qu'elle a été emprisonnée? On sent qu'il y a quelque chose derrière tout ça, mais quoi, hein? Bon, je vais essayer de vous trouver la raison. Hein, vous savez qu'après, des fois, vous mettez un mot sur Gogol. Vous savez, Gogol, vous connaissez Gogol? Hein? Ah oui, bon. Et puis, d'un seul coup, il vous donne 25 définitions. Alors, après, il faut fouiller, il hein, faut trier. Hein. Alors là, c'est à vous de bien regarder où est la bonne définition. Hein, hein. Bon, voilà. Alors, j'étais en train de chercher un de mes poèmes dans la nouvelle revue qui s'appelle La vie multiple, qui est éditée à Bergerac par nos amis qui sont eux-mêmes hydropathes à Périgueux et qui sont aussi un club de poésie qui s'appelle La vie multiple. Et ils font un petit, une revue, hein, carrément une revue, contrairement à nous, le journal, tous les 3 mois. Voilà. Et là, c'est le janvier 2024. Et ils sont gentils, ils passent des poèmes, comme nous, on passe des poèmes d'eux, hein, voilà. Et je suis en train de rechercher le poème que j'avais écrit à Madame Hidalgo, la mère de... Où est-ce qu'il est, ce poème? Merde, alors. Oh. Non, pas encore. Oh. Ben alors, il me l'a mis où? Pourtant, il m'a bien dit que c'était dans ce numéro-là. Hein? Oh là là. Oh là là. Bon. On va finir par le trouver, oui ou? Eh ben, dites donc. Oh là là. Alors voilà, ben voilà. Madame le maire de Paris, laissez les bouquinistes bouquiner, laissez les livres vivre en bord de Seine, laissez l'Olympe choisir ses livres, ne laissez pas les quais vides, donnez une nouvelle chance aux vieux livres. 225 ans en bord de Seine, depuis 1789, et pour une flamme olympique, vous verrez le savoir des livres. Comme disait Camus, tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude. Voilà. Laissez les livres sur les quais tranquilles. Laissez Voltaire, Hugo, Dumas dormir en prenant la sage décision que pour que les bouquinistes continuent de bouquiner et de faire bouquiner les Français. Puis, comme les rats ne savent pas lire, faites faire le ménage à ces rongeurs et profitez pour en éradiquer les punaises, les pénis de lait, afin que les gens puissent lire sans se démanger toute la nuit. Voilà. Alors, on a appris que les bouquinistes resteraient en place. Alors, je lui ai envoyé la lettre, hein, j'ai mis l'adresse de la mairie pour que les gens en fassent autant. Alors, je ne dis pas que c'est grâce à moi, hein, non, non. Mais c'est grâce à tous ces gens que j'ai vus, moi, sur Facebook et puis d'autres réseaux, qui ont donc critiqué cette décision de virer les bouquinistes pendant les Jeux Olympiques, d'autant plus qu'on sait très bien qu'il serait arrangé pour pas qu'ils reviennent. Hein. Ça, c'est une honte, ça. Vous voyez, ça fait pratiquement 200 ans que ça existe. On ne va quand même pas déconner, non hein. Ça représente 400 000 livres, 900 boîtes, 230 bouquinistes. Et alors, vous savez que le terme bouquin est né en même temps que l'apparition de l'imprimerie. Le terme bouquiniste est apparu en 1752. Vous voyez, ça fait un bail que le mot bouquiniste existe. Hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et je suis content, personnellement, pas que grâce à moi, mais grâce à tout ce mouvement qui est né le jour où on a su qu'ils voulaient virer les bouquinistes. Et, mais ce n'est pas elle, en plus, qui a rétabli les choses. C'est le préfet. C'est le préfet de Paris. Voilà. Et certainement, derrière, il va y avoir des hauts placés pour leur dire « Arrêtez vos conneries, quand même ». D'autant plus que les gars qui vont faire le marathon le long des quais des bouquinistes, ils peuvent s'arrêter pour lire. Bon, alors c'est sûr qu'il faudrait que ce soit tous les concurrents de marathon qui s'arrêtent. Hein. On leur donne, allez, 5 minutes. On leur dit, vous arrêtez là, stop. Dans 5 minutes, tout le monde repart. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'inégalité, vous voyez. Tout le monde repart à son rythme. Et tout le monde s'est reposé 5 minutes. Alors, reposer le corps et l'esprit. Hein. Parce qu'ils ont de quoi lire, hein, selon leur goût, hein, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'ils peuvent mettre du temps à trouver, selon les goûts. Hein. Victor Hugo ne va pas trouver ça tout de suite. Hein, hein. Du Aimé Césaire non plus. Hein. Du Maurice Méliès non plus, on ne va pas trouver ça tout de suite. Hein. D'ailleurs, excusez-moi, mais je crois que je suis pas chez les bouquinistes. Vous inquiétez pas. Mais tiens, ce serait une bonne idée d'aller mettre mes bouquins chez les bouquinistes. Je leur offre. Comme ça, ils les vendent, ils sont du fric. Hein. Ben, je leur offre, parce que moi, maintenant, mes bouquins... Pensez bien, je veux pas encore quand je vais avoir 20 ans ou 30 ans de plus, je vais quand même pas m'amuser à aller faire les salons du livre et puis aller mettre mes bouquins chez les libraires. Je n'ai rien à foutre. Hein. Enfin, pardon, excusez-moi du mot. Je sais que normalement, je devrais pas dire ça parce que on est encore dans les vacances scolaires. Hein. Bon, alors, il paraît qu'il ne reste pas grand-chose. Maël, t'as quelque chose à dire? Non, il a rien à dire. Ben non, il est en train de regarder son smartphone. Pourquoi tu fais ça comme ça avec ton doigt? Mais parle!
Je veux manger un tacos.
Il veut manger un tacos. Vous parlez d'une poésie, vous? Manger un tacos. C'est quoi un tacos?
C'est un sandwich avec de la viande, de la salade, des tomates et des oignons.
Bah, c'est nul, ça. Moi, je peux t'en faire à la maison. Allons.
Tu sais pas faire.
Et moi, on l'appellera des tacos méliés.
Ils seront pas bons.
Ils seront pas bons, les miens? Tu as jamais goûté?
Oh. Si.
Si? Non, c'est pas vrai. J'en ai jamais fait, alors. Bon, ben bah, écoute, il nous reste... allez, je te laisse une minute pour parler, toi. Qu'est-ce que t'as à dire, là? Arrête de te trottiner sur ta chaise, là, te tortiller. Bon. Je vous aime bien, chers auditeurs, auditrices. Est-ce qu'il y a des petites filles qui m'écoutent? Hein? Voilà, tu pourrais dire des trucs comme ça. Bon, allez. Je le fais. Comment? Vas-y.
Faut arrêter d'écouter la radio de mon grand-père.
Oui, bah, t'es pas gentil, hein. Oh là là, je sens qu'il va prendre un coup de martinet en entrant à la maison, lui. Avec des lanières, avec des bouts de fer au bout des lanières. Oh, ça va faire mal.
Faut qu'il m'achète un tacos et puis c'est bon. Vous pouvez écouter.
Voilà, c'est ça. On appelle ça de la menace. Il menace son grand-père. Hein. Il faut que tu achètes un tacos. Voilà. Hein. Vous vous rendez compte comment ils sont, les jeunes de maintenant? Incroyable. Moi, si j'avais dit ça à mes parents, ils m'auraient foutu par la fenêtre du 6e étage. Sûr. Allez, je vous dis à bientôt. Et puis, faites attention à vos gosses. Hein. Vous voyez ce que ça donne, le résultat des gosses de maintenant, hein? C'est vraiment plus poétique du tout, ça. Hein. Ça n'a plus rien à voir avec la poésie. Allez, je vous embrasse.